mais aussi de réserver une part des biens du mari aux enfants. Donc les femmes justement qui sont dans ces villages-là sont plutôt susceptibles d'être, de ressortir du droit égyptien. Après, quand on voit les quasiment pas de femmes qui empruntent durant la première période, et on voit les femmes durant la seconde période qui se mettent à emprunter, manifestement grâce aux paquets. Mais c'est vrai que ce qui est frappant, c'est qu'elles empruntent uniquement dans le plus haut segment du marché. Donc effectivement, ce qu'on se dit, c'est que sûrement des gens d'un milieu social plutôt élevé. Mais je peux pas le prouver. Je peux faire que l'hypothèse, c'est ça. Là, je sais pas. Je les vois la plupart du temps uniquement dans ce stade de crédit et les vois d'une part. Donc c'est très difficile pour moi de déterminer la position sociale des gens qui apparaissent dans le
monde. Oui, le texte que vous écrivez, votre texte, d'une certaine manière, c'est une donnée qui n'entre pas comme fondamentale dans la réflexion,
oui.
Même si elle ressort quand même, hein, parce que. Bon, pareil, on voudrait savoir pourquoi c'est toujours de l'argent, est-ce qu'il y a des dots, d'où elle tire cet argent, il y a des quantités de questions comme ça qu'on se pose sans arrêt. Et puis aussi, qu'est-ce que le long terme? C'est tout ça, c'est des crédits, il y en a beaucoup, c'est du court terme. Comment ça... moi, j'ai trouvé que c'était absolument passionnant, mais c'est vrai que ça m'a posé plein de questions. Et à un moment, vous le dites d'ailleurs, donc autant l'affronter d'emblée. Parce que vous dites peut-être que les femmes font l'objet d'une certaine méfiance sur le marché du crédit. Donc, alors, et là, c'est tout ça. Donc, vous ne parlez pas de ces problèmes, mais néanmoins, ils affleurent.
C'est que les femmes fassent l'objet d'une méfiance.
Et oui, mais elles font l'objet d'une méfiance parce qu'elles ont des problèmes de statut, parce qu'elles ont des problèmes d'invisibilité, parce que.
Oui.
Voilà. C'est tout ça. C'est pas parce qu'elles sont des banqueroutières ou qu'elles ont des mauvais comportements.
Non,
donc voilà, c'est en sens là que je dis Oui, voilà.
Enfin, elles ont quand même des biens propres et elles empruntent en leur nom propre.
Oui.
J'ai des indications.
Oui, mais ça dépend du statut, du cycle de vie. On peut aller soit vers la généralisation, soit essayer de comprendre les différences. Hein. Non, j'entends bien qu'elles sont quelque chose, puisqu'elles peuvent mettre en gage, mais quelles sont les femmes? On voit derrière ce qu'elles racontent que les veuves. C'est-à-dire que les femmes ont des statuts. Enfin, au moins, c'est une question, je trouve, fondamentale, regardant l'Europe occidentale. La femme n'est pas la même selon qu'elle est célibataire, mariée ou veuve. L'homme, il est à peu près toujours le même, sauf chose extravagante. Donc, dans la mesure où on étudie les femmes, alors c'est difficile de les traiter comme des hommes.
Les hommes, je me rappelle beaucoup. J'en avais parlé avec François, justement, et lui, c'était plutôt les veuves qu'on voulait. Mais justement, le droit égyptien rend pas nécessaire. Une femme peut tout à fait emprunter en son nom avec ses biens, avec son mari. C'est pas du tout. Elle n'a pas besoin d'être veuve pour le faire.
Non, mais ça, c'est hyper intéressant
Disons qu'elle est flatteuse à l'époque, par analogie, mais maintenant, je pense qu'elle est plus nécessaire. Mais ça reste une possibilité. Donc, encore une fois, la très grosse difficulté de l'histoire sociale de l'Égypte romaine, c'est que 99% des gens qu'on voit, on les voit une fois. Donc, c'est vraiment dur.
Il n'y a pas des cas juridiques qui vont ça.
Si, il y a des cas juridiques sur le statut du mariage, mais ponctuellement sur les personnes que je vois, c'est vraiment dur d'arriver à dire. Mais c'est plus favorable qu'en Italie romaine, le droit romain. Et à mon avis, plus favorable aussi que dans l'Italie des communes, celles qui sont soumises au droit égyptien.
Moi, ça me fait plaisir pour elle, mais.
Moi, j'avais une question qui était plus pratique, qui était liée à mon ignorance totale de la période, qui était double. Je me demandais s'il y avait moyen de savoir. Quelle proportion de la population des villages dont vous parlez pourrait être concernée par ce type de prêt à partir des sommes en jeu par rapport à ce qu'on sait, si on sait des choses, de la richesse des gens. Et c'était lié à une autre question dans mon esprit qui était le caractère abordable de ces prêts du point de vue des coûts de transaction. À partir du moment où il y a la bibliothèque des acquis dont vous parlez, il n'y a pas le téléphone, je suppose, donc il faut aller voir. C'est centralisé à un endroit, ce qui veut dire qu'il faut que le notaire se déplace, il envoie quelqu'un. Est-ce que quelqu'un prend en charge les frais? C'est quand même pas donné, je suppose. Est-ce que ça veut dire que ça bloque les petits prêts au niveau notarial, si l'obligation est d'aller vérifier ce genre de choses? Il y a tout un aspect pratique de la mise en œuvre. C'est-à-dire que le néo-institutionnalisme, on se dit en termes d'institution, mais est souvent un trou au niveau de la pratique, parce que souvent l'institution c'est comme un décret, un droit, il y a toujours des décrets d'application, c'est les valeurs d'application qui sont importants.
Donc est-ce que vous dites vous aussi même pour le premier niveau du crédit, parce que le simple fait d'aller voir un notaire et de faire un contrat par un notaire, c'est déjà un coût, et on soupçonne par quelques lettres privées qu'un jour qui tout à l'heure notarié, on voit notamment des pression garantie par des bijoux, par des vêtements, et ça on ne le voit jamais dans les actes notariales. Donc il y a ce premier niveau-là qu'on peut juste soupçonner par quelques actes.
Après, un infra-niveau.
Donc voilà,
il y a des prêts non monétaires, par exemple.
Non, des prêts en nature, il y a des prêts en nature qui sont notariales, parce que c'est assez cher. Des grosses quantités, ça, vous avez vu ça. Mais après, il y a ce niveau de la première période, qui est effectivement déjà, et la moyenne est 100 drachmes. C'est quand même pas rien.
Oui, c'est ce que je
j'aurais imaginé. Ouais. C'est pas des prêts de 5 drachmes, 10 drachmes qu'on n'en voit jamais dans les
actes. C'est-à-dire que le paysan de base ne va pas prêter 100 drachmes.
Si, il y a des paysans, enfin, je pense qu'on entend par paysan de base, mais qui a des terres, c'est quelque chose qui peut faire, les terres ont une valeur importante, qui peut prétendre emprunter 100 drachmes, 200 drachmes, on emprunte 500 drachmes. Et souvent, c'est un gros problème. La structure de la famille, ce n'est pas les familles qui créent la plupart du temps. Les frères, souvent, continuent à habiter ensemble et continuent à exploiter les terres ensemble. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il n'y a pas tant de prêts que ça au sein de la famille. Parce que on pas à son frère ou à sa sœur, parce que c'est une seule unité qui connaît
des activités internes dans une vie.
Donc ils sont ensemble, donc là aussi ça augmente leur capacité d'emprunt, parce qu'ils sont tous ensemble, ils ne divisent pas les terres. Quand il y a des paysans qui empruntent pour semer, en général, on va avoir 3 ou 4 frères qui empruntent ensemble, qui sont dans l'acte écrit ensemble avec leur femme, justement, parce que des fois que leur femme aurait des droits sur leur terre. Et après, la bibliothèque des acquis, oui, c'est évident, c'est un coût important que le notaire répercute sur les contractants. Mais c'est obligatoire uniquement pour les frais qui sont garantis sur la terre ou sur les maisons. Donc, a priori, il est très important. Donc, pour ces gens-là, c'est effectivement un coût, mais qui est en proportion moins important que pour les petits frais. Les petits frais ne sont pas concernés par la bibliothèque. Tout ce qui intéresse l'administration romaine, c'est de contrôler ce qui se passe au niveau des terres, principalement des terres. Les maisons aussi, c'est vraiment sur les terres. Donc ça coûte cher, enfin un coût effectivement, mais qui est relativement négligeable parce que ça concerne les prêts les plus importants. Mais vous avez raison, ça a un coût de 3%.
Si je peux intervenir là-dessus, sur cette question des coûts de transaction, ce qu'on est d'opinion admise pour l'Italie communale, c'est que l'introduction du registre de notaire fait diminuer énormément le coût de transaction. C'est-à-dire que c'est rien, ces 3 lignes dans un registre, c'est vraiment très bon marché. Je n'ai pas de chiffre en tête, mais c'est peut-être quelques deniers, hein, c'est vraiment une toute petite, les notaires sont des gains petits, et donc l'opinion admise, c'est que d'un seul coup, quand le registre de notaires se met à faire quoi, c'est-à-dire sûrement un peu avant ce qu'on a, le premier qu'on a conservé, c'est les fameux génois du milieu du XIIe siècle, disons que ça commence à se diffuser au début du XIIIe, et donc ça favorise énormément on peut dire soit le crédit, soit l'inscription, une inscription élémentaire du crédit. Et d'où la question ensuite, pourquoi est-ce que il y a du crédit qui reste verbal, puisque tout le monde dit, mais vraiment tous les gens travaillent sur des notaires. Et donc, qui pensent la même chose, tout le monde va chez le notaire très couramment, plusieurs médiévistes ont décrit cette scène, ont imaginé, ça se passe le jour du marché, on fait la queue chez le notaire, on prend comme témoin les types qui attendent dans l'antichambre, et le tout est vraiment très, très bon marché. Ce qui coûte cher, c'est si on va en justice après, il faut évidemment faire une copie de l'acte, et là, ça peut coûter plus cher. Mais l'inscription elle-même ne coûte pas rien. Donc c'est une question, pourquoi est-ce qu'il y a du crédit qui passe même pas chez le notaire alors que ça coûte presque rien?
C'est une question pour lui, mais c'était justement là-dessus.
Pierre, il faudrait que tu te présentes.
Pardon, Pierre Gervais. Donc c'est pas tout à fait pareil. Très bonne période. Ce qui m'avait frappé, c'est que dans ce que vous racontez aussi, par exemple, j'avais relevé dans les cas 4 et 5 des crédits qui avaient lieu entre des gens pour lesquels on aurait pu attendre une relation de crédit différente de celle qui a effectivement été choisie. C'est-à-dire qu'il y a une type qui emprunte un drap à un bourgeois de la ville et qui fait même plusieurs emprunts successifs, donc ça finit toujours par donner une somme qui n'est pas nulle. Donc c'est pas a priori une connaissance, puisque il est à la campagne et il va acheter des draps à la ville. Et par ailleurs, il y a les villageois qui ont posé leur canal, et puis au lieu d'emprunter directement à l'abbaye, font un circuit extrêmement compliqué pour éviter ça. Et ça m'avait amené à me demander si, dans le choix du type de crédit, c'est-à-dire crédit gratuit oral, et crédit gratuit oral, en plus il y a un continuum, parce que chez nous au moins aux États-Unis, il y a un continuum avec les crédits en nature gratuits, qui sont en fait des échanges de services entre voisins, complètement non monétarisés, mais parfois quand même comptabilisés. Et donc ça forme une espèce d'énorme continuum, jusqu'à la pointe des crédits vraiment sérieux, monétaires, notarisés. Mais dans ces choix de crédit, est-ce qu'il n'y a pas, comme variable, peut-être sinon essentielle, du moins très importante, le type de relation à la fois sociale et personnelle que les deux individus qui rentrent dans la relation de crédit vont avoir, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, et en même temps l'objet du crédit, c'est-à-dire qu'il va y avoir toute une stratégie de choix sur quel type de crédit on va choisir. Je me demandais ce que vous en pensiez de ça, c'est-à-dire que deux personnes pourraient potentiellement avoir d'une part un crédit gratuit et oral, dans un certain type d'objets et de relations, et puis en même temps passer par devant notaire un crédit devant notaire pour autre chose. Et alors là, ça voudrait dire qu'en réalité, ce qui fait la différence pour le crédit, c'est pas les formes elles-mêmes, c'est le choix des formes par les acteurs.
Oui, c'est ce que je voudrais dire, je ne me pose pas vraiment, je ne sais pas s'il y a le choix des formes. Peut-être que j'ai jamais trouvé de situation où les mêmes personnes avaient deux types de crédit différent entre eux, mais c'est vrai que par exemple dans ce cas c'est très bien choisi l'exemple, qui est particulièrement explicite, il veut dire. Donc ces habitants de ce village, en fait ils se connaissent entre eux, ils ont sûrement aussi entre eux des crédits qu'on ne connaît pas, gratuits, tout ça. Simplement dans ce type de crédit là, c'est un crédit qui est finalisé vers quelque chose de très précis, qui est le creusement de ce canal, donc qui est un mouvement de communauté. Et en fait, ça commence par des prêts des riches du village, au moins riches. Et ces gens-là, ces riches du village, ils sont appelés, on les connaît, parce que c'est vraiment un secteur exceptionnellement bien documenté, ce village. Et on en connaît plusieurs qui ont essayé de s'installer en ville comme prêteurs ensuite. Bon, ça n'a pas marché, les trois qu'on connaît sont venus, ils sont retournés au village. Mais je veux dire que l'on est dans une logique de crédit. De financement, hein, pas de crédit, pas de crédit